7h. C'est pas trop tôt.
Boulevard Against le matin.
Vous voulez savoir la nouvelle?
Quoi?
Jusqu'à 10h. Boulevard Against le matin.
J'avoue que là, je serais pas contre.
Boulevard 102.
6h51 minutes. Boulevard Against le matin sur Boulevard 101 pour nous joindre. 418-971-1021. Meilleure façon de nous écouter, l'application Boulevard 101. Disponible App Store et Google Play Store. À la météo, 12 degrés à l'heure actuelle, 27 degrés ensoleillés aujourd'hui, 28 demain, 29 vendredi, du beau temps pour la fin de semaine également. Donc, l'été est bel et bien arrivé au Québec. Mathias, circulation, tout va bien?
Tout va bien ce matin.
Excellent. On a avec nous une très belle visite. On est toujours heureux de l'avoir avec nous. Puis souvent, quand on se parle après ça, ça déboule sur des bonnes nouvelles. Fait que c'est pour ça qu'on est encore plus content. Olivier Teasdale, bon matin.
Salut, bon matin.
Good. Olivier, gros été pour toi. Déjà un an, le départ de ton père Jacques. Vous l'avez justement souligné devant l'Assemblée nationale. Comment on vit ce tour de roue-là? Justement, on dit toujours que dans le deuil, ça prend un premier tour de roue. Écoute, t'es arrivé là?
On le vit d'une façon un peu différente d'un deuil normal. Il faut comprendre qu'avec le combat qu'on mène actuellement, le deuil n'est pas tout à fait commencé, puis va se commencer beaucoup plus tard pour nous. Mais je dirais qu'on le vit à la manière dont mon père aurait voulu qu'on le vive, c'est-à-dire en se battant, puis en gardant on dit toujours en restant le plus droit possible, mm-hmm. puis intègre, puis à le faire comme il faut. Puis c'est comme ça qu'on le vit actuellement tous les jours.
Dernière fois qu'on s'était parlé, il y avait eu le commissaire aux plaintes qui s'était penché sur votre dossier, qui avait fait son rapport. On était en attente du coroner. Est-ce qu'on a des nouvelles du coroner?
On est toujours en attente. Il faut comprendre que c'est des dossiers qui sont longs, hein, quand même. Il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de gens à voir, il y a beaucoup de choses à rencontrer. Puis je comprends que le coroner veut faire un travail qui minutieux pour rendre un rapport qui va être le plus précis possible et pour la famille et pour les autres acteurs dans le dossier. Donc, on devrait avoir ça quand même, je pense, d'ici la fin de l'année, là, 2025, j'ose le croire.
Là, vous avez décidé de demander à l'Ordre des infirmières d'enquêter sur le grave manque de dignité de maltraitance. Qu'est-ce qui vous amène là? C'est encore des nouvelles informations que vous avez reçues du personnel infirmier?
Ben, comme vous le savez, on est public depuis un an. On fait le tour depuis un an, puis on reste actif parce qu'il ne faut pas qu'on nous oublie comme on a oublié mon père. À ce moment-là, on a beaucoup d'informations qui rentrent. Hein? Beaucoup d'infirmiers, d'infirmières qui nous appellent, qui nous textent, qui nous envoient des messages. Puis suite à ces informations-là, ben, on les vérifie. On vérifie des choses, c'est important parce qu'il y en a beaucoup.
Puis là, est-ce que ça continue quand même? Parce qu'il y avait eu des infirmières qui avaient été suspendues. Là. Donc, comment ça se passe, tout ce processus?
On a encore des infirmières et des infirmiers qui ont du courage au Québec, qui nous textent. Il y en a qui nous textent de façon anonyme, mais quand même, on le prend. Puis on va valider l'information. Aujourd'hui, avec l'ampleur du dossier médical qu'on a, on est capable de vérifier ce qu'on nous donne comme information, savoir ce qui s'est passé. Puis avec ça, on est capable de transmettre de l'information puis de publier de l'information aussi.
Vous dites qu'il y a des infirmières du personnel qui vous écrit. Est-ce que parallèlement à ça, puis ça vous permet d'étoffer votre enquête puis d'étoffer les informations que vous disposez, est-ce que parallèlement à ça, la commissaire aux plaintes a terminé son enquête ou elle aussi continue son
côté? Le commissaire aux plaintes, lui, a fermé son rapport après 40 jours. Lui, il a son rapport... Si on compare, juste pour vous faire un petit résumé très court, l'Ordre des infirmières, le Collège des médecins, le coroner, c'est des enquêtes qui vont se baser sur à peu près un an. Il y a beaucoup de documents à voir. Puis on a un commissaire qui, en 40 jours, vient nous dire « Votre père n'était pas aux soins palliatifs, donc il n'a pas eu les soins qu'il était en droit d'avoir. » On est un peu sceptique par rapport à ce genre de rapport-là.
Ouais.
Parce qu'il faut comprendre que si les autres prennent un an pour faire un rapport... Ouais. Beaucoup de misère à m'expliquer comment un commissaire peut arriver à un résultat après 40 jours sans avoir rencontré personne.
Ben oui.
C'est assez complexe de faire ce genre de rapport-là. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à me rentrer dans la tête qu'un commissaire peut arriver à un rapport en 40 jours.
Il y a peut-être des impératifs là, d'échéancier. Il doit répondre rapidement à des plaintes. Est-ce qu'il y a un mécanisme? Savez-vous s'il y a un mécanisme d'appel ou de demande d'aller en profondeur par rapport au commissaire? Je dis ça parce que si on n'utilise pas tous les outils qui sont à notre disposition, ben après ça, on peut se le faire reprocher. Donc, je veux voir qu'est-ce qui est à notre disposition.
On peut se diriger vers le protecteur du citoyen ensuite.
Ouais.
Ce qu'on est en train de regarder actuellement, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de pages dans tout ça, mais on regarde cette option-là aussi. C'est une option qu'on n'a pas laissée de côté, qu'on est à regarder. Compte tenu de toutes les informations qui rentrent, c'est peut-être des décisions qu'ils vont faire qu'on va prendre plus facilement pour se diriger vers le protecteur du citoyen.
On a un texto qui est rentré de David qui, justement, te mentionne, Olivier, lâche pas, j'ai été témoin de comportements douteux exactement au même étage, il y a de cela 14 ans. C'est des nouvelles infos que vous obtenez comme ça, des nouveaux témoignages au jour le jour, je dirais?
Ça arrive un peu tous les jours, puis il faut juste comprendre une chose qui est bien précise. les gens, des fois, les gens me demandent « Vous étiez où la dernière nuit? » Bien, si on avait eu le choix, on aurait été avec mon père si on nous avait téléphoné. Mm-hmm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mon père est en soins actifs et non en soins palliatifs. Ouais. Donc, il est en soins pour se faire soigner la même journée, le 15, en fait, avant qu'il décède, le 16. Il venait de passer un taco. J'avais parlé avec le résident qui est en oncologie. Il y avait un début de pneumonie, mais sans plus. T'sais. Je comprends que pneumonie, ça peut être important pour une personne que ce type de cancer-là. Mais il n'y a rien qui laissait présager
que
mon père allait mourir. Alors, son état s'est dégradé extrêmement rapidement dans la nuit, à ce qu'on nous a dit. Il n'y a personne qui a pris le temps de prendre le téléphone pour nous appeler pour dire « Bien là, il faudrait peut-être vous en venir parce que votre père ne va pas bien. » Puis, il n'a pas eu le droit de mourir avec sa famille autour de lui parce que quelqu'un qui a décidé de ne pas nous appeler, quelqu'un qui a décidé à notre place de dire « Tu sais, ça ne se passera pas comme ça cette nuit, alors que ça aurait dû se passer comme ça. »
Oui, exactement. Le sort des infirmières qui avaient été suspendues, est-ce qu'ils sont de retour au travail?
Absolument, absolument.
Est-ce qu'ils vivent de l'intimidation? Est-ce qu'elles vivent de l'intimidation ou ça va bien?
Ce qu'on nous dit, c'est que ça n'a pas été facile au retour.
Ouais.
Puis je pense que...
Pas facile avec les gestionnaires?
Avec l'autorité patronale, ouais, si on veut. Ça n'a pas été facile au retour, il faut le comprendre. Par contre, ils sont revenus au travail. Je sais qu'il y a des griefs syndicales aussi qui ont été déposés dans ces dossiers-là, avec compréhension. Je pense que c'est tout à fait anormal qu'on ait suspendu les gens qui ont osé donner de la bonne information, alors que ceux qui n'ont pas bien soigné mon père, bien, pratiquent toujours.
Vous avez votre cas personnel, mais c'est le cas probablement d'autres personnes qui n'ont pas le micro, qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas pris l'initiative là, de faire connaître leur situation. Est-ce que, à travers tout votre processus, vous souhaitez avoir des réponses, avoir peut-être des excuses par rapport à votre dossier, par rapport au dossier de votre père, mais est-ce que vous souhaitez aussi parallèlement défaire des systèmes ou défaire des manières de faire pour s'assurer que d'autres personnes ne revivent pas ce que vous avez vécu?
Absolument. Puis on continue le combat, puis on l'a élargi parce que c'est ce que mon père aurait voulu aussi qu'on fasse. Ouais. On l'élargit parce que on peut pas continuer à donner des mauvais soins de ce genre-là au Québec. Je pense que même si des gens me disent que le système de santé est gratuit, il est loin d'être gratuit. Quand je regarde mon rapport d'impôt à la fin de l'année, j'en ai payé une bonne partie.
Ouais.
On ne peut pas laisser les gens non plus maltraiter nos aînés. C'est les gens qui ont bâti le chemin avant nous. Ils ont passé avant nous. Ils ont bâti une partie du Québec. Pourquoi les traiter comme ça? Parce que je pense que chaque fois qu'une personne va aller utiliser le système de santé, a des droits. La santé, c'est un droit fondamental. Les gens ont le droit d'être bien soignés. Puis ils ont surtout le droit d'avoir une dignité.
Ouais.
C'est pour ça qu'on continue aussi pour toutes les autres. Parce qu'on en reçoit des histoires d'horreur. On en a des centaines à tous les jours, des histoires d'horreur qui rentrent. Ça rentre, puis ça continue de rentrer. Moi, j'étais à tel étage, j'étais à tel hôpital.
Avec des photos,
exactement, exactement. Ça. Donc, c'est difficile de dire que le système de santé va bien. Mais aussi, je pense que ça va prendre une bonne part de bon vouloir de la part de gens qui veulent peut-être pas être, qui sont peut-être pas à leur place. C'est peut-être au lieu de tasser les bonnes infirmières qui prennent le temps de dénoncer, il faudrait peut-être regarder du côté des pommes pourries ou qu'est-ce qui se passe exactement avec ces gens-là.
Pour rappel, on parle avec Olivier Teasdale, fils de Jacques Teasdale, décédé depuis un peu plus d'un an, qui a subi de la maltraitance à l'hôpital L'Enfant Jésus. Des nouvelles de Christian Dubé, Olivier, c'est ta fameuse rencontre que t'attends. T'as pas dû avoir de signal, j'imagine?
Pas encore, puis je suis même rendu à dire, écoutez, s'il veut m'appeler au téléphone pour prendre 30 minutes
ça
au téléphone,
faire, hein?
Ça va faire pareil. Mais je pense qu'écoutez, dans ce dossier-là, puis dans plusieurs dossiers du gouvernement, soit ce qu'on touche au gouvernement, les gens, on voit que les gens veulent éviter ce genre de dossier-là. Je pense qu'un appel serait acceptable. Je pense que ça vaut la peine de le faire, puis ça peut aider à changer certaines choses dans le système de santé, puis à faire que des Jacques Teasdale, on n'en a pas d'autres tous les jours.
As-tu l'impression qu'on essaye de te décourager avec ces délais-là?
D'épuiser. Je dirais que, et le CHU, et le gouvernement, je pense qu'ils se disent, le jeune, il n'est pas si fort que ça, mais je regarde ça tous les jours, puis au début, je vous disais, j'étais tout seul.
Ouais.
Là, je regarde tous les commentaires qui rentrent, puis c'est une grosse vague d'amour qu'on a toutes les fois qu'on va publier quelque chose, on a des bons commentaires, les gens nous appuient. Je pense que le ministre, puis et le CHU de Québec, et le ministre doivent se rendre compte que finalement, je suis pas mal moins tout seul que je l'étais au départ quand j'ai commencé.
Avez-vous du soutien ou avez-vous établi un lien avec le Conseil de la protection des malades?
Non, on n'a pas eu de discussion. Je sais que M. Brunet, de ce côté-là, a fait beaucoup d'interventions au niveau même du dossier de mon père à la radio à Montréal. Il a fait plusieurs interventions. On n'a pas eu la chance de se parler directement dans le dossier. Peut-être à venir, peut-être que ça viendra, mais pour le moment, on n'a pas eu de discussion.
Ça serait une belle occasion d'unir vos forces, là, parce que le Conseil de protection des malades, ça fait des années qu'ils font un travail extraordinaire. C'est une voix essentielle au Québec pour dénoncer justement toutes les lacunes de notre système. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 1er, c'est que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Avez-vous l'impression qu'on a vraiment quelque chose là? Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Avez-vous l'impression que l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme est mis en cause carrément?
Bien, ils l'ont du moins oublié. Parce qu'il faut comprendre une chose. Tu sais, quand on vient au monde, souvent on est entouré de nos parents. Puis quand nos parents partent, si on se fie à l'échelle normale, généralement, on va être là avec nos parents. Puis mon père et moi, on a toujours été proches dans la vie. Puis je dis pas que je suis mieux qu'un autre ou que je suis parfait. Ce que je dis, c'est que j'aurais aimé être présent avec mon père pour ce départ-là. Parce que je pense que c'est un moment dans la vie qui est important. Tu perds une personne que t'aimes. Tu sais, vous parlez de la dignité dans l'article. La dignité, il a été enlevée au moment où il est rentré dans cet hôpital-là, sur cet étage-là. Et il a fallu se battre à tous les jours pour obtenir des soins. Il a fallu envoyer une mise en demeure à l'hôpital pour dire, écoutez, hey, allô, il a besoin d'avoir de bons soins, puis c'est pas ce que vous faites. Parce que je le rappelle, il n'était pas en soins palliatifs, il était en soins actifs.
Ouais.
On a commencé à parler de soins palliatifs quelques jours avant son décès. Ouais. Il n'était pas rendu aux soins palliatifs. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu facile de dire, ah, il n'était pas aux soins palliatifs, il n'a pas eu le droit aux soins, mais actif, palliatif, peu importe le soin, quand tu rentres à l'hôpital, je pense que tu as le droit à ta dignité. Tu as surtout le droit d'être soigné comme il faut.
Olivier, on te remercie infiniment pour ton passage encore une fois en onde. Tu nous tiens au courant, tu le sais, à Boulevard 102.1, la porte est toujours ouverte pour
normalement,
toi.
Le téléphone sonne quand je viens ici.
Ben, c'est ça, exactement. Je vais souhaiter que tu me textes ou que tu m'appelles après-midi et me dis « Hey, Jeff, c'est encore au marché! » On est rendu à cette étape-là.
Ben non, mais là, si les gens veulent y offrir des témoignages ou de l'information supplémentaire, de l'aide quelconque, où est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre?
Ils peuvent nous joindre sur ma page Facebook. Puis, je suis jamais gêné. J'ai mis mon numéro de téléphone cellulaire. Il a toujours été sur Facebook depuis toujours. Ça, c'est une chose que mon père m'avait appris. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire, nous texter, puis ça va nous faire plaisir de vous. Puis je rencontre des gens qui ont vécu les mêmes histoires, puis on les écoute, puis on les partage, puis on va s'assurer que ces histoires-là aussi soient entendues.
Bravo, Olivier, de continuer à livrer ce combat-là, non seulement pour ton père, mais pour la population en général. Merci beaucoup là,
merci
pour ton travail acharné. Puis décourage-toi pas, on va être avec toi, nous autres.
Je suis encore là pour
un coup de temps. Sois pas essoufflé, on va t'en donner de l'énergie.
Chaque changement du combat que Olivier Teasdale mène, chaque changement qui vont arriver grâce à ça, ben on va tous en bénéficier.
C'est clair.
Tout le monde qui écoute en ce moment va en bénéficier. Oui. Les enfants vont en bénéficier, les parents vont en bénéficier. Parce qu'on finit tous
moi,
un jour ou l'autre à l'hôpital.
Qui vont finir à l'hôpital.
Ben
puis je me dis qu'Olivier livre le combat pour Denis puis Lucie.
Pour la population complète.
Exactement. Fait que merci Olivier d'être là pour,
merci
pour
à
nous
tous.
La porte est toujours ouverte puis je te souhaite une excellente journée.
Allez, merci.
Cool. Merci.
Merci. Alors, on fait une courte pause à Boulevard 102.1. Vous êtes à Boulevard Against le matin. On fait le tour de l'actualité par la suite et on va parler de Karl Malenfant. Est-ce que Karl Malenfant, l'ancien grand gestionnaire du fiasco Saclic et avant tout la tête de Turc qui sert à protéger les François Bonnardel, Éric Kerr et Geneviève Guilbeault en cette pleine commission d'enquête publique? C'est la question qu'on va se poser sur les ondes de Boulevard 102.1.
Jusqu'à 10h, Boulevard.